check ça. Du tableau noir à la page blanche du lycée, chaque cours une nouvelle rime à ciseler. Le son qui pose les bases pour les esprits qui s'élèvent, ses regards sur l'école, la connaissance et la sève. De la cour de récré à l'examen, le flow est le même. On décortique le système car l'éducation est reine. La bande son de ta scolarité, écoute bien le thème. Regard sur l'école pour voir le futur qu'on sème.
Ouais, la connaissance et la sève.
Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 et vous écoutez Regard sur l'école avec José, moi-même. Regard sur l'école est une émission qui questionne l'école et propose des éléments de réponse. Alors aujourd'hui, nous allons parler des écoles Montessori. Nous sommes très nombreux, et j'en fais partie, hein, je vais dire quelque chose qui va pas trop plaire à notre invité, à résumer les écoles Montessori comme étant des écoles où les enfants font ce qu'ils veulent. Donc ils choisissent leur apprentissage, ils sont libres de circuler, voilà. Et donc j'ai voulu en savoir un peu plus sur les écoles Montessori. Et aujourd'hui donc nous avons comme invité Monsieur Pabot, donc qui est directeur du collège. Ben, je vais te laisser te présenter.
Bonjour. Donc je m'appelle Maxime Pabot, je suis membre de direction d'un campus à Pantin. Et on a dans notre campus une école maternelle Montessori, à pédagogie Montessori, une école élémentaire à pédagogie Montessori. Donc je vais pouvoir un petit peu casser le mythe et un petit peu aller plus loin dans les représentations très simplistes de les enfants font ce qu'ils veulent. Et je suis aussi membre de direction d'un collège, aussi à Pantin. Et là, on s'approche plutôt de pédagogie alternative, dont effectivement la pédagogie Montessori fait partie de l'ensemble des valises des enseignants dans leur valise pédagogique.
D'accord. Donc, je vais faire une petite présentation de ce que sont... ce que c'est que l'école Montessori. Donc, elles ont été créées par Maria de Montessori, donc une Italienne qui a fait des études de médecine, donc créée en 1907. Donc, et pour résumer, hein, je vais aller à l'essentiel parce que tu en parleras un peu plus. Donc, elle a étudié pendant 50 ans avec les enfants de milieux sociaux et culturels très défavorisés et en difficulté. Donc, elle va développer sa méthode, hein, la fameuse méthode de Montessori, en s'appuyant sur une démarche expérimentale et d'observation, dans le but d'obtenir l'épanouissement de l'enfant. Voilà, et après, ça repose sur trois piliers. Bon, tu auras l'occasion de nous en parler. Et ce que j'ai lu hein, dans mes recherches, c'est qu'il y avait une forte croissance du nombre d'écoles Montessori et aussi des écoles alternatives. J'en avais entendu parler, mais j'avais oublié qu'il y avait les écoles alternatives. Donc, par exemple, les écoles alternatives, tu nous expliqueras ce que sont les écoles alternatives, mais les écoles Montessori en font partie. Et donc, entre 2024 et 2025, il y a eu une augmentation de 115 nouvelles écoles alternatives. J'ai vu dans mes recherches aussi qu'il y avait que 20 collèges Montessori. Et 4 lycées Montessori. Donc, peut-être que je me trompe. Et en tout, il y a à peu près, en France, 400 écoles Montessori, selon mes recherches. Donc, pourquoi est-ce que, voilà, il y a cette forte croissance de demande d'intégration dans les écoles Montessori? C'est parce que, ben justement, il y a des parents qui souhaitent avoir un enseignement, une éducation personnalisée par rapport au profil de leur enfant. Et l'école Montessori a fait ses preuves. Et donc, pour l'épanouissement et l'autonomie de leur enfant, ben, certaines personnes préfèrent que leur enfant soit dans des écoles Montessori et s'épanouissent autrement que dans des écoles classiques. Voilà. Je suis allée à l'essentiel et puis après, le reste, c'est toi qui seras plus précis. Je ne vais pas m'aventurer à raconter n'importe quoi.
Je voilà. préfère cette vision d'encourager l'épanouissement, la curiosité. Ça, c'est le cœur des écoles Montessori.
Si, ça, c'est vrai que je suis enseignante, donc l'idée de l'épanouissement, ça, on le sait très bien. Et d'ailleurs, j'étais professeure des écoles avant pendant 13 ans, et donc j'ai eu l'occasion d'enseigner à la maternelle. Et par rapport à l'école Montessori ou aux méthodes Montessori, je trouve qu'à la maternelle, c'est très adapté. C'est ce qui se fait aussi, hein, ce qui est préconisé, hein. Et ça fonctionne pas mal. Hein. Donc voilà. Donc on va commencer notre entretien. Donc est-ce que tu peux te présenter? Tu t'es un petit peu présenté. Et par contre, tout de suite, quand j'ai vu École Montessori 21, je me suis demandé, mais pourquoi Montessori 21?
Avant de répondre à cette question, je pense qu'il faut réexpliquer un petit peu le fonctionnement en fait de qu'est-ce qu'on entend dans une école Montessori. Oui. En France, en fait, il y a trois types d'établissements. On a des établissements publics qui représentent la très très grande majorité de l'enseignement en France. On a aussi une part en fait d'enseignement privé sous contrat où le personnel en fait est payé par l'éducation nationale. Et on a une troisième école ou établissement scolaire qui sont les établissements hors contrat. Et quand on parle de pédagogie Montessori ou de pédagogie alternative, on est sur cette troisième catégorie. C'est-à-dire que nous, on n'a aucun financement de l'État. On est visité par les différentes académies, on a des inspections, on respecte les textes officiels, on est très sensible, voilà, à tous les parcours de sécurité routière, construction du citoyen, EVAR, tout ce qui est phare, le harcèlement, etc. Donc on suit toutes ces recommandations vraiment à la lettre. Et donc quand on parle d'école privée hors contrat, on parle aussi de financement, et donc ça implique de mettre ses enfants dans une école avec une pédagogie particulière qui pousse à l'autonomie, mais il y a un engagement financier très important dans ces écoles-là, et on a plusieurs réseaux de pédagogie d'école Montessori, et donc notre réseau à nous, il s'appelle Montessori 21. On a actuellement 11 écoles en France. On en a principalement en région parisienne. On a aussi à Marseille, à Pau. Et donc, moi, je suis membre de direction du campus Pantin, avec justement la maternelle, l'élémentaire et ainsi que le collège. Et ensuite, on a d'autres réseaux, qui sont des réseaux plutôt concurrents, qui pratiquent la pédagogie Montessori. Et l'autre élément que je voudrais aussi donner, c'est que on est aussi contrôlé, visité par l'AMI, puisque on a des instances en fait de pédagogie. L'AMI, on est sur une école Montessori, un centre de formation. Et en fait, quand on s'appelle école Montessori, on dépend de l'AMI, d'un centre de formation. Donc, je pense que la première différence qu'on peut dire, c'est que Montessori, on est vraiment en lien avec un centre de formation Montessori. Et quand on l'est pas, on est pédagogie alternative, et on est dans une autre partie en fait des écoles privées hors contrat.
Voilà. D'accord, mais j'avais une question par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que ça existe des écoles Montessori sous contrat? Pas encore?
À ma connaissance, non.
D'accord, mais qu'est-ce qui fait obstacle, vu que vous respectez, vous êtes visité par les inspecteurs de l'éducation nationale, ils vous laissent faire fonctionner vos écoles? Donc, qu'est-ce qui fait obstacle?
Pour répondre, on doit parler de la formation de mon équipe.
Ah oui.
On n'est pas sur un concours d'État.
C'est vrai.
On n'est pas sur un master. On n'est pas sur un concours CRPE. Voilà, on est plutôt sur des éducatrices, éducateurs. Avec un CAP petite enfance, avec un certificat EJE petite enfance.
D'accord, là je comprends mieux. Oui, c'est évident. Ben, je vais te laisser nous parler du fonctionnement de la maternelle et ensuite de l'élémentaire.
Je vais me concentrer du coup sur la maternelle et en fait la représentation un petit peu qui est véhiculée dans les médias et aussi par le commercial, c'est-à-dire, oui. Voilà, on va parler de tous ces outils, ces jeux, en fait, qui sont mis à disposition et que l'on voit et qu'on pense comme étant une pédagogie Montessori. En fait, on est principalement sur la pédagogie 3-6 ans.
D'accord.
Et donc, on a de la maternelle. Et donc, quand on rentre dans une ambiance... dans la pédagogie Montessori, on parle d'ambiance, on parle pas de classe, puisqu'on amène les enfants à avoir trois âges différents pour avoir beaucoup plus d'autonomie. Et donc, dans les, on n'appelle pas ça des classes, on appelle ça des ambiances. Et donc, l'ambiance est l'ambiance 3-6. Et quand on rentre dans une ambiance 3-6, on redécouvre le matériel qu'on a pu voir, voilà, par exemple, à la FNAC ou à Nature et Découverte, voilà, les lettres rugueuses, etc., etc. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que quand on est sur une ambiance 6-9, il faut un petit peu détricoter, déconstruire toute la pédagogie, elle tourne autour d'autres choses. Le matériel est utilisé différemment. On pousse les enfants à la conceptualisation, à la théorisation des lois mathématiques et aussi de grammaire. Et donc, du coup, il y a moins de matériel qui est mis à disposition et on pousse les enfants vers l'abstraction. Et en fait, quand on est sur un 9-11 ans, on a très peu, en fait, de matériel. Et l'idée, c'est de pousser les enfants vers l'abstraction. Et on est, pour l'ambiance 3-6, sur effectivement un accompagnement à l'autonomie autour de plateaux de manipulation. Encore une fois, je pense que c'est quelque chose de plutôt commun quand on pense à Montessori. On est, voilà, sur l'enfant, il est libre effectivement d'aller vers un atelier, d'aller vers un plateau. Il se place où il veut, il manipule avec respect comme l'a présenté l'éducatrice. Et donc, il est libre de pouvoir refaire cet atelier, aller vers un autre atelier, etc. Donc là, on est dans la représentation, effectivement, l'enfant suit sa curiosité, suit son envie. Il est accompagné par les éducatrices qui le observent beaucoup. On a beaucoup, beaucoup de temps d'observation dans la pédagogie Montessori. Et en fait, l'éducatrice va pousser la curiosité, va accompagner les enfants vers l'autonomie en justement lui proposant un autre atelier et peut-être un peu casser l'image de « il va faire toujours ce qu'il veut ». Non. Quelquefois, l'éducatrice va lui proposer un autre atelier pour aller pousser sa curiosité, etc., etc. Donc, ça, c'est le fonctionnement de la maternelle. Et sur les ambiances 6-9 ou 9-11, on a donc moins d'ateliers de manipulation, moins d'individualisation, et on pousse beaucoup plus les projets collectifs. Et en fait, les enfants vont nourrir leur curiosité autour de grands projets et de grands récits dans leur construction, voilà, des apprentissages. Et il y a beaucoup d'observations aussi dans toutes les ambiances, même jusqu'à 11 ans.
Alors la question que je me pose, hein, c'est, je pense que tout le monde se la pose, cette question, comment vous gérez les situations où l'enfant il est réfractaire à faire une activité, où on a tous, pas nos phobies, mais voilà, des domaines qu'on n'apprécie pas. Moi, j'ai jamais aimé dessiner, ça n'a jamais été mon truc. Donc il vous arrive d'avoir ce type de situation, vu qu'ils ont quand même cette liberté de choix. Ils peuvent être tentés d'aller tout le temps, même tout le temps dans les mêmes, c'est les plateaux, c'est ça, dans les mêmes plateaux. Et puis certains, non, ça les intéresse pas. Et puis voilà. Même si on leur propose, ils vont y aller une fois parce que l'éducatrice les y aura emmenés, mais après ils veulent plus en entendre parler. Donc comment vous gérez ce genre de situation, vu qu'ils ont plus de choix que dans les écoles classiques?
C'est l'une des très très grandes spécificités des écoles hors contrat, c'est qu'on conçoit l'enseignement non pas avec des attentes par période ou par classe, mais en fait on laisse l'enfant 3 ans, puisqu'on parle d'ambiance, et en fait si demain il n'est pas intéressé par ce matériel-là, bah, peut-être que dans un mois on lui reproposera, peut-être que dans un an on lui reproposera. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est-à-dire que peut-être cet atelier-là sera présenté par l'éducatrice ou l'éducateur, mais il peut être aussi proposé par les autres enfants.
C'est vrai.
Et donc, voilà, d'où, encore une fois, la question de l'observation. L'éducatrice, elle doit, voilà, toujours avoir un œil sur, ah, finalement, en fait, l'enfant, par rapport au feutre, par exemple, il n'a pas d'appétence, il n'est pas forcément attiré, voilà. Mais peut-être qu'un jour, sur un thème, accompagné par un certain copain ou copine, il ira vers cette activité. Et là, il est très important pour l'éducateur et l'éducatrice de savoir comment il a été vers cet atelier, vers ce plateau. Et voilà, s'il y a été, qu'est-ce qu'il a réalisé.
D'accord. D'accord. Et donc, comment sont répartis les élèves dans les... Non, c'est pas les espaces, tu nous as dit que ça s'appelait...
Ambiance.
Dans les ambiances. Faut que je retienne ambiance boîte de nuit. D'accord. Donc...
Comment ils sont...
Répartis, je sais pas. Tu m'as dit qu'il y a une centaine... Bon, ça, c'est dans les trois, sur les trois établissements, mais à la maternelle, par exemple. Vous avez un effectif de combien d'enfants ?
On est à 24 enfants par ambiance.
Par ambiance ?
Par ambiance, avec deux éducatrices. Notre réseau à nous a fait le choix d'avoir deux éducatrices, une éducatrice francophone et une éducatrice anglophone. Ça, c'est un vrai parti pris du réseau Montessori 21. On a d'autres, voilà, dans d'autres écoles, on peut avoir un enfant pour 12 avec une seule éducatrice. Voilà. Nous, notre choix de réseau, il est sur 24 enfants avec deux éducatrices. Et donc, comment est un petit peu organisée la journée ? À la différence de l'école publique où on va avoir le matin des rituels et constructions, etc. Nous, les élèves, ils sont très rapidement mis en autonomie sur les plateaux, sur des plages horaires qui sont assez importantes. On peut les laisser 2 heures la matinée sur des activités de manipulation libre ou en co-intervention avec une éducateur, une éducatrice ou avec un autre camarade. Voilà, ils sont laissés sur des grands temps. Alors que quand on pense l'enseignement public, on estime qu'un enfant, en fait, il a un temps de concentration... Si on est à 20 minutes, on est très, très large.
Oui, oui, je confirme,
voilà. Voilà, il faut prévoir beaucoup d'activités, faut stimuler.
Faut que ça tourne.
Et en fait, dans la pédagogie Montessori, c'est l'enfant en fait, qui fait tourner son intérêt et qui va aller ranger l'atelier, qui va aller en choisir un autre, etc. Et donc, on laisse des temps beaucoup plus importants pour que l'enfant puisse... S'il n'a pas envie, il a envie d'avoir un petit temps calme pour lui, il y a des espaces dans la classe, il va s'asseoir, il va avoir un livre, ils vont pouvoir aller discuter avec les copains et les copines. Quelquefois, l'éducatrice va les inviter à un atelier ou pas. Peut-être que c'est d'autres enfants qui vont inviter l'enfant. Voilà, on respecte la journée, le temps de l'enfant dans la journée, dans son année, mais nous, on conçoit sur 3 ans. Et ça, je pense que c'est l'une des très, très grandes différences avec l'éducation nationale. Et je parlerai pas de tout ce qui est lié aux évaluations nationales, oui. Où en fait, on a des attentes par année, par période. Maintenant, les CP, on est sur deux évaluations dans l'année. Il y a beaucoup, beaucoup de pression, en fait, qui est portée sur les enfants dans le public. Et le privé, et notamment la pédagogie Maria Montessori, fait totalement contre-pied. En fait, à tout ça, où l'enfant, il y a pas de d'évaluation, il y a très très peu de feuilles, il y a très très peu de papier crayon, voilà, entoure quand ça fait 3, qu'est-ce que t'as compris comme bonhomme, etc. C'est autour d'un matériel assez spécifique, et on retrouve cette approche aussi chez les grands en élémentaire. Par exemple, on va pas forcément systématiser le cahier du jour. Il y a d'autres outils qui peuvent être utilisés. Et après, on aura peut-être le temps d'en revenir, mais ça pose aussi la question du statut de l'erreur, puisque en fait, ce n'est pas tant l'éducateur ou l'éducatrice qui donne la réponse, mais en fait, le matériel en lui-même, en fait, il est autocorrectif, et donc on ne va pas mettre de notes, on ne va pas mettre de smiley, on ne va pas mettre... Voilà, c'est l'enfant qui s'auto... évalue, qui s'auto-satisfait en fait de sa curiosité d'apprendre et de sa découverte de support.
D'accord, mais comment on peut se rendre compte des progrès d'un enfant, parce que lorsqu'on est sur le terrain, on le voit, mais vous devez entre guillemets matérialiser ces progrès par un support, par un livret, en supposant que par exemple un enfant ait fait... était dans votre école à la maternelle, qui passe dans une école élémentaire, il faut qu'il y ait des traces par rapport aux compétences acquises.
Et là, j'ai envie de féliciter l'ensemble des éducatrices du réseau. On a un outil qui s'appelle Transparence Classroom, où en fait, les éducateurs et éducatrices prennent en photo en fait, les enfants en fonction de la compétence vu et évalué. Et elle note en fait quel enfant était sur la photo, quelles compétences il est en train de travailler. Et en fait, d'accord, automatiquement, ça nous génère en fait des livrets sur la compétence. Et cet outil, il est très intéressant. Et encore, voilà, je le redis aussi, on a des attentes quand même de l'éducation nationale. Mmh. Et donc, chaque atelier a effectivement des compétences qu'on peut retrouver dans le public, puisque si un enfant fait la petite section chez nous, mais après souhaite repartir dans le public, ben, il faut qu'il y ait un livret de compétences.
Oui. D'accord, très bien. Et il est accessible à tout le monde. Tu as dit, c'est quoi, Trans Classroom ?
Transparence Classroom.
Ah, Transparence Classroom. Ouais. C'est alors, gratuit ou pas, ça ?
Pour être honnête, je ne le maîtrise pas du tout. Comme moi, je suis en maternelle, en élémentaire et au collège. Voilà, comme tous ces outils en fait, d'évaluation, comme notamment Pronote pour les grands,
oui, oui, oui.
Je maîtrise de très très loin les questions, mais les éducateurs et éducatrices, elles sont très formées sur ces outils.
J'irai tester. Non, parce que c'est intéressant comme... Après, il faut que les parents acceptent que l'enfant soit photographié.
C'est dans les contrats, en fait, quand on signe tout de suite le droit à l'image par d'accord, rapport à Transparence Classroom, parce qu'en fait, c'est vraiment un outil d'évaluation et de suivi des apprentissages qui est assez important, au moins pour notre réseau. Il y a d'autres systèmes hein, dans d'autres écoles d'évaluation, mais nous, on a ce système-là et je dois dire qu'il fonctionne très très bien.
D'accord. Non, c'est très bien. Donc, après, découvre.
Ouais, on a aussi des rendez-vous de parents, des rendez-vous de compétences. On n'est pas sur des rendez-vous de livret scolaire.
D'accord. À quelle fréquence ?
On est sur deux rendus
par
parents.
D'accord.
Et après, on va même un petit peu plus loin, c'est-à-dire que je discutais il y a un mois avec mes collègues directrices qui m'ont parlé de ce qu'est la philosophie de Montessori. Et en fait, il y a la pédagogie à l'intérieur des ambiances, mais en fait, il y a une philosophie. Et en fait, le rapport avec les familles est aussi différent dans une école Montessori. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de moments où, par exemple, on va inviter les familles à partager un moment d'enseignement. Pendant la journée. On a à peu près 3 ou 4 jours où on propose aux familles de venir observer les enfants.
Voilà. D'accord.
On a aussi des événements festifs. On a la fête de l'hiver, la fête de l'automne, le carnaval. Voilà. On a aussi d'autres moments festifs où les parents viennent célébrer. D'accord. Mais voilà. Et je pense que c'est aussi intéressant, encore une fois, de parler de philosophie. C'est qu'on va un petit peu en contre-pied aussi de l'école publique, qui est une école qui, moi, j'ai jamais vraiment adhéré à cette histoire de sanctuaire où l'école, dès qu'on ferme notre porte,
oui,
on emmène nos élèves là où on a envie et on les porte. Et voilà. La pédagogie Montessori, elle est vraiment en lien avec l'extérieur. Elle est ouverte, en fait, sur l'extérieur. Qui dit extérieur dit aussi les parents. Et en fait, les parents, ils sont aussi...
acteurs.
Acteurs, et même, alors je vais même un petit peu plus loin, c'était même le cas cette semaine, c'est-à-dire que j'ai même des parents d'élèves qui viennent déboucher les éviers, changer avec l'échelle, ils viennent nous accompagner, nous aider. Voilà, c'est aussi leur école. Et donc il y a aussi des événements festifs entre parents, et c'est pour ça que j'aime bien l'idée de philosophie. Vraiment, au sein de l'école, et dans notre réseau Montessori 21, c'est vraiment le cas.
Quand je t'entends, j'ai l'impression que c'est presque familial. Vous êtes une famille un peu.
Tout à fait.
C'est un peu ça.
Tout à fait.
Et est-ce que les parents, à la sortie de l'école, est-ce que les éducateurs sont disponibles pour les parents ? Parce qu'il y a peut-être des parents qui ont besoin d'être rassurés et qui, à la sortie, ont besoin de discuter avec vous. Vous devez être très sollicité. Bon, moi, j'ai vu à l'école maternelle, c'était atroce, ça. On regarde l'heure, on se dit, oh là là, je vais rester une demi-heure après 16h30. Donc, vous prenez le temps pour ça.
On suit tout. On suit le temps des siestes. Est-ce qu'il a bien dormi ? Est-ce qu'il a dormi longtemps ? On a un long temps d'échange avec les familles. Donc, avec les éducateurs, éducatrices ou avec les assistants, assistantes. Et on a aussi des événements où les parents on appelle les cafés des parents, viennent discuter sur un petit peu la, la coparentalité, c'est-à-dire sur des différentes situations qui peuvent être vécues à la maison, et les parents aiment, voilà, veulent avoir d'autres idées, d'autres solutions en fait, et donc les parents se voient et discutent entre eux. En début d'année, on a eu beaucoup de questions, notamment autour du gâchis alimentaire, puisque on a un service de traiteur, et donc pour des raisons d'hygiène, on doit jeter tout ce qui n'a pas été mangé par les enfants. Et quand on a un enfant de 3 ans, 4 ans qui en fait n'a jamais mis de la nourriture à la poubelle, parce qu'à la maison c'est facile de remettre dans une boîte, et où nous le soir quand les enfants sont couchés on termine le yaourt ou le fruit, etc. Donc à la maison on n'a pas forcément la culture de jeter. Et il y a eu en décembre des cafés de parents où les parents ont discuté sur le gâchis. Qu'est-ce que vous dites à votre enfant quand on met à la poubelle? Voilà. Et ça, c'est des questions qui sont pas forcément liées à l'école dans sa structure classique. Et les parents viennent avec leur sujet et discutent. Voilà.
Oui, vous partagez en fait.
Aussi entre eux. Et donc, voilà, encore une fois, c'est aussi leur école. Voilà. Et on se montre aussi très disponible. Voilà, on parle pas des rendez-vous. On a beaucoup, beaucoup d'échanges de SMS, de mails. À la porte, on a des accueils assez importants.
SMS aussi ?
SMS aussi.
Ça doit faire beaucoup d'envois, ça. Vous devez recevoir beaucoup de messages.
C'est très très bien géré par les éducateurs et éducatrices des ambiances. C'est vraiment, voilà, les familles, c'est je suis coincé dans les embouteillages, j'arrive pas à me garer, le vélo il a déraillé, je vais être en retard. C'est juste un peu plus de la dernière minute.
D'accord.
Voilà.
Vous êtes disponible en tout cas.
On est très disponible. C'est et donc pas effectivement, il y a un emploi du, enfin il y a un calendrier de l'année qui est assez lourd, parce que voilà, il y a tous ces événements-là. Il y a des événements entre enfants pour fêter que enfants, les enfants avec les parents, que les parents entre eux, que les éducateurs aussi entre eux. Donc voilà, c'est je pense que c'est ce qui fait vivre aussi les écoles Montessori. C'est le terme bienveillance, je trouve que maintenant il est un petit peu...
Nous aussi, on l'emploie maintenant.
Ouais, il est trop utilisé.
Enfin, j'ai pas osé le dire, hein. Mais je l'ai pensé. Voilà. On est dans l'excès de bienveillance maintenant.
Mais tout le monde est bienveillant. Enfin voilà, faut arrêter de remettre en question. Enfin voilà, tout le monde est bienveillant, tout le monde est professionnel. Voilà. Mais ce petit, je sais pas comment le nommer, mais voilà, ce petit truc qui fait que le matin, toutes les éducatrices, tous les éducateurs et tous les gamins, même les parents, ils viennent avec le sourire.
Peut-être le côté convivial, familial, de coparentalité.
Peut-être, mais
le
voilà.
Monde de oui-oui, alors.
Quand je passe dans les ambiances et que tout le monde me dit bonjour Maxime avec un grand sourire, je me dis, voilà, ils sont prêts, en fait, à recevoir tout ce que les éducateurs, éducatrices et écoles ont pensé pour eux. Et ouais, et quand on a des enfants qui nous arrivent du public, effectivement, parce que nombre important d'enfants, ouais. Il y a des ADSEM, ça pose la question de la formation, etc., du remplacement. Enfin, il y a tout plein de questions qui sont dans le public et qu'on entend, voilà, il aime pas aller à l'école, il se sent pas bien dans sa classe, il a pas de copains. Je trouve ça hyper difficile pour des gamins, même des collégiens, c'est hyper difficile. Et nous, on a l'avantage de pouvoir accueillir des enfants et de recréer l'amour d'apprendre, l'amour d'aller à l'école et tout ce travail, voilà, autour de l'école, philosophie, etc. Et je sais pas, un enfant qui vient sans le sourire le matin.
Ça, là, tu fais vraiment rêver, là.
Alors, je encore une fois, l'idée ici, elle est pas du tout de cracher ou de remettre les fautes. Non, non, non. C'est juste... C'est un investissement, c'est-à-dire, voilà, nous, on s'investit dans ça. C'est un investissement financier, on parlera peut-être après des tarifs, mais c'est un investissement financier, c'est un investissement, voilà, philosophique et qui paye. Oui, le mot, il n'est pas forcément bien utilisé, mais où les enfants sourient et y a quelque chose de positif dans la coéducation, en fait, qui émerge. Et c'est ça qui est chouette.
D'accord, mais la question que je me pose, c'est que ce système ne fonctionne pas forcément avec tous les enfants. Il y a peut-être des enfants qui ont un profil de type compétition ou qui ont besoin d'être... je dis pas que vous ne cadrez pas dans les écoles Montessori, mais qui ont besoin d'un cadre plus strict. Vous en avez forcément eu.
Faut pas brimer un enfant s'il est curieux, s'il a envie d'apprendre. Faut le pousser. Enfin, pourquoi lui... Pourquoi remettre en question toute cette énergie, cette envie de... Voilà, il peut être toujours stimulé, on peut toujours lui proposer quelque chose. Et encore une fois, l'un des avantages des structures telles que la nôtre, c'est le tutorat. Donc on peut dire, tu maîtrises très très bien, je sais pas, la tour rose, très très bien. Maintenant, tu vas aller peut-être expliquer, parce que toi, tu maîtrises très très bien, en fait, la tour rose. Et peut-être que tu peux aller l'expliquer, parce que t'as vu, il n'y arrive pas, en fait. Il n'est pas assez habile avec le matériel. Peut-être que toi, tu peux aller lui montrer. Et en fait, il n'y a aucun gamin qui dit non.
Oui, mais il y a des enfants qui ont besoin que ce soit strict. Tu t'assois là, tu ne bouges pas. Il y a des enfants qui ont besoin de ça, qui n'ont pas forcément envie de courir partout et qui sont tout le temps dans l'attente de directives, ou peut-être des enfants qui sont dans la compétition. J'ai pas étudié la psychologie de l'enfant par rapport à l'esprit compétitif, mais qui ont besoin d'être... Il y a des enfants qui aiment être notés, être les meilleurs dans leur classe. Il y a toujours ces profils-là un peu partout, quoi.
Bon, après, c'est surtout le profil des parents que tu es en train de décrire. Là,
qui pour toi, tu veux dire que ça ne peut pas venir naturellement d'un enfant.
Non, mais je peux entendre effectivement que la structure même des établissements et le mind des parents va créer ou en tout cas accompagner ce que tu penses être quelque chose qui vient de l'enfant, mais en fait qui est juste lié à l'environnement et à ce que chez eux, on
leur a mis dans la tête. Quoi.
On leur a mis un peu dans la tête. Moi, j'ai une autre question. Alors, je suis d'autant plus convaincu par ce que tu racontes que mes enfants, moi-même, ont été dans des écoles différentes. Alors, pas Montessori en l'occurrence, mais j'ai toujours un peu, moi, cette culpabilité du bourgeois qui peut payer les 1500 euros par trimestre une éducation différenciée. Sachant que on est quand même dans une proposition émancipatrice, comme tu l'as dit, qui devrait être au final la façon dont l'école publique gère ses enfants. Et on voit aussi avec Freinet, qui est repris beaucoup par des établissements publics, mais là c'est plus lié aux équipes pédagogiques en place dans l'école publique qu'une directive globale de l'éducation nationale. Cette parenthèse étant faite, la question c'est, ok, on est dans un truc émancipateur, en plus venant, comme le disait José, d'une scientifique italienne qui s'est surtout attachée aux classes populaires et défavorisées. Comment on résout cette contradiction entre le fait que, au final, vous allez réunir en non-mixité, finalement, une population qui est prête à payer pour cette société émancipée et ces adultes équilibrés, etc., versus tous les autres qui continuent. Enfin, il y a la question du choix. Et c'est pas du tout une remise en question du modèle hein, que tu décris. Et on comprend bien qu'il a besoin d'être financé. Ces éducateurs et éducatrices, elles ont besoin d'être payées. Voilà, il y a pas d'état derrière. Donc effectivement, il y a une contradiction. Mais du coup, moi, elle me gêne un petit peu, et je pense qu'elle gêne aussi beaucoup d'autres parents. Alors, c'est pas une critique frontale ou violente, c'est juste une question philosophique, là, pour le coup, de comment on résout cette contradiction.
Là, je vais parler que du réseau Montessori 21. En fait, il y a un choix qui a été fait au sein de la structure. Déjà, la première réponse, c'est géographiquement. Quand on est à Pantin ou à Aubervilliers, on n'a pas forcément le même environnement que à Plessis-Robinson ou à Chaville.
Bah même... T'es quand même dans un bel environnement gentrifié aussi. Donc
Voilà. Et donc, le choix qui a été fait ici, il est de proposer... En fait, il y a une cotisation en fait, solidaire quand on signe des contrats, ce qui nous permet en fait de proposer des tarifs attractifs, des tarifs soutien, et ce qui nous permet justement, on sait que sur des familles qui veulent vraiment en fait rejoindre cette pédagogie, qui veulent vraiment s'investir, en fait, on a des tarifs soutien qui peuvent en fait donner accès à ces familles. Et donc voilà, j'ai malheureusement pas travaillé cette question-là. Je peux pas vous dire combien de soutien j'ai dans mes écoles.
C'est intéressant.
Etc.
Vous avez donc quand même, enfin vous adressez cette question au travers d'un système différencié j'allais dire cotisation.
Une coopérative un peu comme un système de coopérative.
Ouais,
les parents participent pour soutenir
solidaire. Je pense que le mot solidaire il convient mieux en fait. C'est-à-dire que on parlait de la philosophie, c'est aussi un autre volet. Les parents quand ils signent, voilà, ils fournissent en fait des cotisations à l'intérieur du contrat et ils savent que ils soutiennent aussi d'autres familles pour pouvoir valider une inscription dans notre établissement. Ensuite, on va un tout petit peu plus loin en fait dans ces questions-là, c'est-à-dire que le midi, en fait, on a deux tarifs de restauration. On a effectivement une restauration à plus d'une centaine d'euros avec un traiteur, et en fait, on a une restauration à 40 euros avec une lunchbox. Parce qu'on sait aussi que voilà, ça peut être des économies assez importantes sur l'année. Donc voilà, tout ça est réfléchi de façon à pouvoir créer vraiment, encore une fois, une communauté de parents aussi solidaire.
Oui, mais comment des parents de milieux populaires ou avec des revenus, peut-être pas et très élevés, si jamais des parents vont sur votre site et voient ce que vous proposez et sont intéressés, ça peut les faire reculer. Ils se doutent que ça va coûter cher. C'est dissuasif, je veux dire. Alors que l'école pourrait peut-être convenir au profil de leur enfant. Comment vous faites pour attirer cette autre population, entre guillemets?
Ah, la question est difficile parce que dans ta réponse, moi je pense à financer mon école, c'est-à-dire on loue le local, on a un super accès au parc de Stalingrad.
Non, vous avez des frais, ça c'est certain.
Il y a des frais en fait, et on peut. Nous, voilà, encore une fois, on n'a pas de subvention de personnes de l'État, et donc il y a des. C'est un coût. Ça, c'est sûr que c'est un coût.
D'accord. Bon, après, ça a le mérite d'exister. Donc, comme tu as dit tout à l'heure,
Non, mais après, moi, je comprends. Hein. Ça, le truc, c'est que ça peut être aussi... les parents, les adultes, en règle générale, font tout un tas de choix en fonction de priorités. Il y a un moment, l'éducation de tes enfants et la façon dont ils vont s'inscrire dans un processus d'apprentissage peut devenir une priorité. Et si, de manière assez évidente, ce système de comment on appelle ça d'ailleurs, c'est de frais de scolarité, on va dire ça comme ça, différencié, et solidaire et suffisamment appliqué, j'imagine qu'il suffit de prendre son téléphone ou de se déplacer pour faire le point de sa situation et voir avec les personnels encadrants et de direction de l'école comment une inscription peut être possible. Enfin, moi je sais, je l'ai vécu justement par rapport à une école extrêmement chère dans laquelle effectivement techniquement j'avais pas les moyens et pourtant
tu l'envisageais.
Il y en a trois qui ont, il y en a une qui a fait sa scolarité complète et puis les deux autres jusqu'au collège. Donc voilà, c'est juste, je veux dire, au bout d'un moment aussi, il faut se responsabiliser par rapport, j'entends la question des moyens. Je peux aussi entendre que à un moment donné, quand des facilités par ailleurs peuvent exister, il y a aussi des choix, des choix des familles d'investir en fait dans le bon bonheur futur de leur enfant plutôt que de se victimiser par rapport à une absence de ressources et de décider de subir la situation de l'éducation nationale. Donc je sais pas, je
non mais je suis d'accord avec toi, faut faire des choix,
c'est voilà,
mais c'est la réalité hein. C'est la réalité. Donc on va faire
si tu veux.
On va faire une petite pause. Donc vous êtes sur Radio Cause Commune et vous écoutez Regard sur l'école. Et nous allons écouter Maxime, quel morceau ?
Eh ben on sait pas quel morceau. on va passer un extrait de la bande annonce, enfin la bande originale de Princesse Mononoke. Ça te va ?
Ouais, très bien.
Allons-y, puisqu'on m'a demandé du studio Ghibli et du Joe Isayashi. Donc c'est parti avec celui-ci par exemple.
Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 et vous écoutez Regard sur l'école avec Maxime l'invité, directeur de collège d'une école d'un collège Montessori, et José moi-même. Donc nous parlons du fonctionnement des écoles Montessori. Et donc Maxime, je voulais te demander comment sont recrutés vos enseignants ? Par l'AMI ?
Alors, du coup, on parle d'école Montessori, on est sur l'élémentaire et la maternelle, ok. Et sur le collège, on n'est plus un collège Montessori. On est dans le même réseau, mais c'est pas un collège Montessori. Et quant au recrutement en fait de l'élémentaire, on est effectivement, on a des candidatures spontanées, mais principalement on va vers l'AMI ou d'autres centres de formation qui nous proposent des éducateurs, éducatrices ou des assistantes.
On les appelle jamais enseignants en fait.
Non.
D'accord.
Non.
Parce que le terme n'est pas approprié par rapport à leur formation.
Pas D'accord. le concours de l'État, donc on...
Mais pourtant dans l'éducation nationale, il y a de plus en plus de contractuels qui n'ont aucun concours et aucune formation. Et ils sont appelés quand même enseignants. Donc c'est pour ça que...
Là, j'ai beaucoup travaillé mon vocabulaire, parce que voilà, moi, tout le monde était enseignant, tout le monde a la même enseigne, voilà, avec le voilà, il y a vraiment des spécificités, et les parcours, voilà, entre une enseignante, une éducatrice et une assistante...
Oui, il y a une différence.
Il y a une différence.
Le mot enseignant, les parents, ils les appellent pas enseignantes.
Non.
D'accord. Donc recrutement. Ils suivent une formation, c'est ça, par l'AMI.
Et ensuite, on a des formations. Alors, ils peuvent avoir une formation, par exemple, sur l'ambiance 3-6, faire 2-3 ans de formation, et ensuite. Vouloir changer d'ambiance, et donc ils peuvent aller vers le 6-9 et aller autre chose. Enfin voilà. Et donc là, l'AMI forme et propose des formations au cours de l'année pour pouvoir avoir une pratique plus experte et pour répondre justement à l'hétérogénéité et à la pédagogie dans cette ambiance, etc.
Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un a un bon profil ? Parce qu'il y a des personnes, ça va être rédhibitoire. Vous allez vous dire, non, cette personne, bon, il y a ça, ça, ça qui ne va pas. Donc, il y a des éléments qui doivent faire que vous sélectionnez tel type de personne plutôt qu'un autre type de personne.
Il y a effectivement donc le CV, qui est la première chose qu'on regarde et qui permet de trier. Et ensuite, on a un parcours de recrutement un peu complexe, c'est-à-dire que on fait 3 entretiens dans notre structure. On a un certain nombre d'intervenants et on peut ne pas forcément avoir la formation ou le diplôme, mais avoir la bonne réflexion, la bonne approche, beaucoup d'envie en fait de pouvoir accompagner les enfants dans la pédagogie. Et donc là, on propose effectivement, on accueille, c'est pas vrai, c'est pas la majorité du tout, mais on peut ouvrir la porte à d'autres profils de personnes. Voilà, dans l'ambiance que j'ai à Pantin, on est sur une éducatrice qui, à la base, n'était pas du tout formée Montessori, qui était plutôt sur l'accompagnement des enfants en situation de handicap, avec des parcours d'hôpital de jour, etc. Mais l'entretien, les 3 entretiens se sont super bien passés et elle fait toute l'année, elle se forme à l'AMI, elle va certifier sa maîtrise du 6-9 cette année, mais c'est vrai qu'à la base, elle n'avait pas le diplôme pour pouvoir rentrer. C'est un peu l'avantage des écoles privées hors contrat, c'est que on peut ouvrir la porte à des profils un petit peu plus atypiques.
D'accord. Donc on va passer aussi, aux horaires aménagés, parce que ça aussi, ça m'a intrigué. Il y a des enfants qui ont cours que le matin et qui vont avoir des activités autres l'après-midi. Et donc, je me suis dit, mais comment ils font pour, en une matinée, faire le socle commun des compétences Bon, même si je sais qu'ils ont 3 ans pour acquérir des compétences, ça nécessite... je vais pas employer le terme efficacité, mais comment vous faites ? Parce que le matin, ils font 2 heures, il y a une récréation.
Ouais, il y a une petite confusion. En fait, les horaires aménagés, elles sont sur le collège.
Ah, uniquement sur le collège ?
Uniquement sur le collège.
D'accord. Et bon, on en reparlera plus tard. Et l'apprentissage des langues, parce que tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait 2 enseignants, un qui leur parlait
éducatrice.
En français. Oh là là, j'y arrive pas, parce que pour moi, école enseignant, école professeur. Donc mon cerveau, il n'intègre pas.
Aussi, j'ai ambiance, éducateur, assistant, plateau d'autonomie. Tu vas voir, c'est assez facile après.
Alors, je sais plus ce que je disais. Oui, donc il y a des éducatrices, 2 éducatrices, une qui parle en français et l'autre qui parle en anglais. Est-ce que c'est en simultané ou les enfants circulent, font leurs activités dans les plateaux, et je ne sais pas comment ça fonctionne, comment vous fonctionnez.
Ça, c'est encore propre au réseau Montessori 21. Pour les ambiances de 3-6, elles sont en co-intervention. Elles interviennent toutes les 2 en français et en anglais.
Donc, il y en a une qui parle qu'en français et l'autre qu'en anglais.
Tout à fait.
D'accord.
Tout à fait. Et sur les ambiances d'élémentaire, là par contre, il y a il y a 2 salles. On sépare en fait les enfants en fonction du milieu, enfin du niveau de maîtrise de la langue, non pas l'âge, mais on est vraiment sur un enfant. On accueille des enfants par exemple anglophones qui peuvent avoir 6 ans, qui vont aller dans un groupe un peu plus performant en anglais. Voilà. Et là, en élémentaire, on partage le matin, les enseignements sont séparés.
Ils ont des cours,
oui.
D'accord.
On a de la manipulation autour d'anglais, autour de français. On rentre dans ce qu'on appelle la réflexion autour de la langue, voilà, qu'elle soit en anglais ou en français. Et là, pour le coup, pareil, il y a du matériel. On utilise du matériel, de la catégorisation, on a du tri. Voilà, il y a des exposés. Et il y a un temps qui est en français et en anglais.
Donc, ils sont rapidement bilingues.
Non.
En un an
Non, mais ils sont très rapidement immergés dans l'anglais. Et effectivement, les petites timidités du début de l'année en trois semaines... De toute façon, quand on sait que tel adulte, de toute façon, dès qu'on lui parle, il va parler en anglais... au bout d'un mois, en fait, on apprend à parler avec cette personne.
On va composer avec.
Voilà. L'autre petit point, j'ai utilisé le mot assistante, qui paraît qu'il n'y a pas la même définition que dans le public. En fait, les assistantes, c'est l'équivalent un peu des animateurs.
C'est-à-dire, j'ai pas compris.
C'est le soir à la garderie, pendant les vacances scolaires et le mercredi. Et
d'accord.
Là, on n'appelle pas ça une éducatrice. Nous, on appelle ça une assistante ou un assistant.
D'accord.
Donc c'est voilà, animateur, c'est assistante. Et en fait, on propose aussi à l'intérieur du réseau Montessori 21 des mercredis bilingues. Et donc on accueille des enfants qui sont externes à l'école, uniquement sur le mercredi. Et donc il y a deux assistantes, une assistante en francophone et une assistante anglophone. Et donc, on propose d'accueillir d'autres enfants. Voilà, on parlait tout à l'heure des tarifs. Bah, si on veut, avec des revenus ou pas forcément s'investir autant et scolariser notre enfant tout le temps, on peut, voilà, que le mercredi ou les vacances scolaires, en fait, venir dans notre structure et vivre en fait le même fonctionnement, une franco, une anglaise et qui discute. Qui sont immergés dans la langue.
Donc les mercredis et pendant les vacances, ça fonctionne un peu comme un centre de loisirs voilà, une assistante qui parle en anglais.
Tout à fait.
Alors juste pour pas être pris par le temps, ce serait bien d'aborder la question du collège.
Oui, oui, c'est
parce
vrai.
Que,
l'heure tourne, il reste plus beaucoup de temps.
Non, parce que moi, je découvre en fait qu'il y a des structures, alors qui sont pas, puisqu'on a compris que l'enseignement Montessori, c'était essentiellement l'élémentaire, mais je savais pas qu'il y avait quand même un suivi possible au niveau du
collège.
Du collège.
Tu as 5 minutes, Maxime,
ouais,
pour nous dire l'essentiel.
Je vais répondre aux 26 questions. Non, 26 questions en 5 minutes. Non, c'est une grande richesse, en fait. C'est un grand investissement, une grande fierté aussi de pouvoir avoir ce collège de pédagogie alternative, de pouvoir, encore une fois, aider les enfants qui sont dans une situation très compliquée au collège, en termes d'intégration, de harcèlement, de phobie scolaire, voilà. Et donc, on leur offre une bulle. Voilà, de bienveillance, je vais l'utiliser, mais voilà, une bulle de bienveillance. On accueille des enfants, donc notre collège, on a de la 6e à la 3e. On accueille en capacité maximale, on est à peu près à 15 enfants par âge. Voilà. Le matin, et là pour le coup, on a horaire aménagé. Donc le matin, on est sur des enseignements académiques d'une cinquantaine de minutes, comme un collège en fait classique, ouais. Avec l'utilisation de Pronote, voilà, on note les absences, on note les devoirs sur Pronote, les parents peuvent nous envoyer des mails et des messages, etc. Et l'après-midi, on est pour le coup quelque chose de plus alternatif. On fonctionne en 4 sections mélangées en classe d'âge. Donc, on peut avoir des élèves de 6e, de 5e, etc. Et donc, l'idée, là, on retrouve un petit peu le cœur de la pédagogie Montessori, c'est-à-dire on va demander aux enfants... leur centre d'intérêt et pendant un semestre ils vont s'investir sur un projet soit seul soit avec un sixième ou un copain du même niveau etc.
Ils peuvent tester parce qu'ils peuvent ne pas
tout
avoir
fait.
De préférence au début
et on retrouve en fait vraiment quelque chose dans un petit peu le classique, on peut aller vers ce qu'on veut, on a donc 4 parcours, art renforcé, sport renforcé, langue et médias, et on a tout ce qui est lié à l'art du vivant, le montage vidéo, le théâtre, etc., etc. Et en fait, l'enfant, quand il rentre en sixième, il fait des vœux, et donc il peut, en fait, durant toute sa scolarité, ne faire que sport renforcé et art renforcé.
Donc des enfants peuvent ne pas faire de sport durant toute
renforcé.
Sa scolarité. Ah oui, d'accord.
Dans l'académique, il y a du sport, il y a de l'art, il y a de la musique, voilà, en petit volume, mais sur des enfants qui sont vraiment très très passionnés, qui ont des projets de rentrer au conservatoire ou dans des écoles, etc. Et voilà. Et à la différence des enfants qui sont un petit peu perdus, qui ont beaucoup beaucoup de centres d'intérêt, ben en fait ils vont faire tous les quatre cycles et on laisse les enfants en fait en fonction de voilà des centres d'intérêt et aussi des copains. On va pas se mentir, hein, ils sont très très bons pour se décider entre eux. Viens cette fois-ci on fait sport et puis on est ensemble. Voilà. Et donc on est sur un collège qui pense les apprentissages différemment et qui pense aussi l'accompagnement des enseignants. C'est-à-dire que sur les sections, on accueille en fait non plus des assistants, des éducateurs ou des enseignants, mais on accueille des auto-entrepreneurs, des gens qui sont vraiment passionnés, qui maîtrisent un savoir disciplinaire d'une grande qualité et qui viennent en fait donner cours aux élèves. Et en fait, quand on a un céramiste, un acteur, un ostéo, en fait, qui vient donner des cours à des collégiens, mais il n'y a aucun problème de discipline. Ils sont tous les yeux grands ouverts et ils attendent que la semaine prochaine pour avoir des échanges d'une très, très grande qualité. Et là, on retrouve, on nourrit la curiosité, on nourrit le projet un peu professionnel puisque c'est des collégiens.
C'est plus concret aussi.
Tout à fait.
Et avec un intervenant passionné, bah, ils arrivent à transmettre leur passion.
Et vous avez combien de classes par niveau ?
Quatre.
Quatre.
Sixième, quatrième, voilà. Enfin, classique.
Ils sont une quinzaine, en fait, par classe.
Tout à fait.
Effectif. Mais vous les sélectionnez comment, les enfants ? Parce que vous devez avoir une forte demande.
On les sélectionne pas. En fait, on n'a pas de sélection. Puis par rapport aussi, enfin voilà, faut être honnête par rapport à la détresse un petit peu de ce que le public peut donner. Si les familles ont fait le choix de l'investissement financier, nous on accueille des enfants et donc on a tout un parcours assez particulier et on accueille beaucoup beaucoup d'enfants, des enfants en phobie, des enfants avec des reconnaissances handicap, des enfants en TDAH et on accompagne. Ça c'est tout mon volet personnel à moi de former en fait les enseignants et enseignantes et les auto-entrepreneurs pour que en fait ces gamins qu'ils soient, leur vécu, puissent à un moment, en fait, kiffer de venir à l'école. Et là, on retrouve un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la pédagogie Montessori. L'idée, en fait, de ce collège-là et de notre réseau, c'est de faire kiffer les apprentissages et le partage de connaissances.
D'accord, très bien. T'as quelque chose à rajouter sur un dernier mot à dire sur.
Ouais, je voudrais juste terminer par une petite note un petit peu en fait ce qui me dérange. Bah, moi j'ai beaucoup beaucoup étudié Maria Montessori avec tout son travail autour des bambino, voilà, etc. Et en fait, on a notre équivalent en France de Kergomar. Pauline Kergomar a fait en fait le même travail, voir l'enfant ou le petit bambin en fait curieux, il faut l'accompagner vers l'autonomie, etc. Et souvent on médiatiquement en fait on dit toujours oui Montessori. Alors, c'est pas pour jouer le côté français nationaliste et nous aussi on a chez nous, mais voilà. Et en fait Pauline Kergomar, elle est pas devenue une marque déposée, il y a pas la EMI, etc. Mais en fait cette question là du bien de l'enfant, elle a essayé durant les mêmes années, hein, elle a essayé Pauline Kergomar de vouloir faire un peu émanciper l'école française, et en fait elle s'est pris un peu tout masculine des inspecteurs et elle n'a pas été au bout du truc. Maria Montessori, quand on regarde vraiment toute son époque, elle en avait mais rien à foutre de toutes les pressions. Pardon, j'ai dit un gros mot. Mais voilà, c'est vraiment une lutte de femme, voilà, de vouloir s'affirmer. Maria Montessori, il y a ce volet-là aussi derrière et je trouve que il est aussi un peu à repenser. Enfin, cet élément-là, il est aussi à repenser. C'est-à-dire que il y a la pédagogie, il y a tout ça, mais derrière, c'est quand même des femmes qui se sont des femmes militantes qui ont essayé de changer le contrôle de l'éducation des hommes.
Je pensais par rapport à tout ce que tu dis, et j'en parlais à Olivier tout à l'heure, je lui disais que les élèves que je reçois en bac professionnel, ben, ils sont de plus en plus dépendants, ils manquent d'autonomie justement. Et ils prennent pas des initiatives, ils sont en attente ou passifs. Donc finalement, peut-être qu'il faudrait qu'on intègre à notre niveau dans le public un peu plus de pédagogie type Montessori, peut-être. On n'en fait pas assez. Voilà, ce sera le mot de la fin. Donc, c'était Regard sur l'école sur Radio Cause Commune 93.1. Et donc, l'émission était sur le thème l'école Montessori avec Maxime. Et je vous dis à bientôt. Nous nous retrouvons dans 15 jours. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci, Maxime.
Merci beaucoup.
Au revoir à tous.